7h40. Le Zoom Info sur Europe 1. Alors hier, Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles, nous racontait la nouvelle initiative européenne pour freiner la déforestation importée. Pour ça, l'Union européenne veut interdire les produits de grande consommation qui sont issus de forêts menacées. Il y a 6 produits visés, le soja, le bœuf, l'huile de palme, le café, le chocolat et le bois. Donc l'air de rien, c'est quand même presque 20% de tout ce que l'on importe. Le levier, ce serait de grosses amendes pour les industriels qui ne contrôleraient pas suffisamment la provenance de leurs approvisionnements. Ça, c'est la puissance du premier marché de la planète. On peut donner le là sur les marchés. On peut quand même s'interroger sur les conséquences d'une telle décision à être aussi sélectif. Le café va-t-il devenir rareté hors de prix? Le petit noir au prix de la coupe de champagne au nom de la planète. Alors sachez qu'ailleurs dans le monde, on n'aborde pas la question environnementale tout à fait de la même manière. Je vous propose ce matin un regard chinois sur la question. Bonjour Nathalie Bastianelli.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes l'ancienne directrice générale d'Avas Media à Pékin et Shanghai. Vous avez quitté l'entreprise il y a un petit moment maintenant.
Oui.
Hein. 2013, hein, c'est
oui,
ça
absolument.
Et vous signez un livre étonnant pour qui ne connaît pas la Chine des gens, hein, pas la Chine du régime. Hein. Quand la Chine s'éveille verte, qui nuance tout de même le discours sur le premier pollueur de la planète, qui rouvre des mines de charbon pendant la COP26, ça nous a tous marqués. Combien de temps vous avez passé en Chine d'abord?
J'ai vécu là-bas 5 ans.
Oui. Et vous avez fait beaucoup d'allers-retours depuis, vous continuez.
Alors depuis que je suis rentrée effectivement de mon expatriation en Chine, j'ai régulièrement voyagé en Chine de tous les 2-3 mois parce que mon ONG que j'ai créée a organisé un événement annuel à Pékin ou Shanghai pour justement promouvoir une consommation consciente et responsable auprès des jeunes générations.
Alors il se trouve que la Chine, premier pollueur, je l'ai dit en termes d'émissions de CO2, mais il faut voir aussi les atteintes à l'environnement en fait, parce qu'on parle toujours du CO2, mais il faut voir aussi les atteintes à l'environnement. Et paradoxalement, c'est la grande force de la Chine puisqu'ils ont une conscience, les Chinois, très élevée de l'urgence à agir.
Oui, parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair en fait. La pollution en Chine, elle est multidimensionnelle. Elle s'est beaucoup vue parce qu'il y a la pollution atmosphérique. On se rappelle tous de l'Herpocalypse, ce nuage.
Alors non, on s'en rappelle pas tous justement. Mais qu'est-ce que c'est cet Herpocalypse? Vous l'avez vécu vous, ça?
Alors moi, je l'ai vécu. Alors je ne vivais plus en Chine, mais je l'ai vécu quand j'y retournais. Effectivement, l'Herpocalypse. Enfin voilà, ça avait été traité dans tous les médias. Et c'est vraiment les médias chinois qui ont donné ce terme où il y avait un tel brouillard de pollution qu'on ne se voyait pas de l'autre côté d'un trottoir. C'est-à-dire, moi, je me souviens que quelqu'un qui vivait pourtant à Shenzhen, dans le sud de la Chine, et quand il était venu, il m'avait expliqué qu'il était dans une ville du Nord, et quand il tendait son bras devant lui, il ne voyait pas ses doigts.
Et il y a ça en Inde actuellement, à New Delhi, connaît exactement le même phénomène. Et ce phénomène d'herpocalypse qui remonte à 2013
oui.
a vraiment provoqué une prise de conscience des autorités du régime chinois, mais aussi de toute la population. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que vous racontez dans votre livre, c'est que la Chine est bien plus verte qu'on ne le croit. À quoi ça se voit ?
Eh bien d'abord, quand en 2016, sur les 20 villes les plus polluées du monde, là aujourd'hui, la première ville la plus polluée est 17e dans le rang mondial. Et ça s'est vraiment déplacé en Inde, comme vous le dites. Donc déjà, en termes de pollution atmosphérique, les citoyens chinois voient à quel point ça a été amélioré. Et c'est vrai que le gouvernement, il y a vraiment eu un basculement. Pendant toute la construction de la Chine moderne de ces 40 dernières années, ils avaient totalement délaissé les problèmes environnementaux. Pourtant, la population, vraiment... Vous aviez quand même des initiatives d'ONG qui essayaient de lutter contre les entreprises polluantes, contre les décisions gouvernementales dans les provinces.
Et donc des ONG en Chine qui travaillent librement ?
Alors, au départ, elles étaient muselées, c'est vrai. Les ONG environnementales, on sait très bien que les ONG sociales sont muselées toujours. Mais maintenant, elles sont soutenues, voire même financées.
Donc les Ouïghours, on n'en parle pas, mais l'environnement, en revanche, c'est une scène.
Absolument.
Un thème, pardon.
Et c'est soutenu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un consensus. Et le gouvernement a très bien compris qu'ils avaient besoin de la société civile, et notamment des entreprises, parce qu'ils s'appuient beaucoup sur les entreprises qui ont réussi en Chine. Elles ont un devoir de participer à la transition écologique.
Mais on imagine avec la fermeté du régime chinois derrière et des entreprises au garde-à-vous aussi. Et ça, ce qui pose une question, je vous la pose tout de suite, Nathalie Bastianelli. Est-ce que le régime chinois, l'autoritarisme du régime chinois est un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique et contre la pollution?
C'est ce qu'on dit effectivement, parce qu'ils peuvent prendre des décisions comme ça, très brutales, les imposer imposée à tout, au peuple chinois. Donc pour nous, c'est facile parce qu'on est occidentaux. Enfin là, on est des occidentaux, on voit ça de loin. Mais vraiment, à vivre, je pense que si on posait la question à un Chinois, je ne suis pas sûre qu'il prendrait ça comme un atout. Mais c'est vrai que les décisions sont absolument massives.
On a vu les autorités régionales là décider à contraindre l'arrêt d'usines parce qu'on arrivait au niveau maximum autorisé d'émissions de CO2. C'est inimaginable en France.
Non, c'est inimaginable dans beaucoup de pays, mais parce que maintenant, les décisions politiques ont fait que Pékin avait lancé beaucoup de directives pour arrêter les usines à charbon, arrêter d'en construire. Dans les provinces, ça continuait. Il y avait quand même des autorisations de l'Agence nationale de l'énergie. Et du coup, maintenant, les cadres dirigeants du parti sont notés également sur leurs objectifs environnementaux. Donc, dès qu'ils voient qu'ils les dépassent, eh bien, effectivement, c'est complètement irréaliste. Ils coupent l'électricité des villes.
Alors, votre livre, c'est ça qui c'est sa richesse, c'est-à-dire fourmi de portraits et d'initiatives concrètes de choses que l'on voit en Chine et dont on parle très rarement dans notre pays. Par exemple, vous parlez de l'automobile et il y a une taxe carbone infligée à la vente d'automobiles polluantes qui vont jusqu'à plus que doubler le prix d'un véhicule thermique. Oui. Quant à l'inverse, un véhicule électrique se vend en Chine aux alentours de 3 000, on trouve des modèles à 3 000, 3 500 euros.
Oui, c'est vrai. Au salon automobile de Shanghai, le dernier qui s'est déroulé sur 1000 voitures présentées, vous en aviez plus de 600 qui étaient électriques. Donc on voit à quel point, en fait, le gouvernement, il a décidé que d'ici 2030, le marché automobile représenterait 50% de son marché. Or, il était à 8% en 2020. Et maintenant, vous avez des amendes vis-à-vis des constructeurs, qu'ils soient locaux ou internationaux. Dès lors, ils ne rentrent pas des quotas de voitures électriques dans leurs ventes.
Comme fait l'Union européenne, hein, mais à une échelle, à l'échelle du marché chinois.
Oui, parce qu'à Pékin, à Shanghai, par exemple, si vous voulez acheter une voiture non électrique, c'est la loterie. C'est-à-dire, vous souscrivez à un billet de loterie et peut-être que vous aurez la chance de décrocher le billet qui va être gagnant parce que vous ne pouvez plus acheter de voiture, de voiture à essence.
Oui. Mais la question que je voulais vous poser m'échappe au moment où je voulais vous la poser. Mais cet effet signal prix, est-ce qu'il engendre, est-ce que la population suit et est-ce que ça ne provoque pas des réticences de la population puisqu'on se souvient qu'en France, on a toujours cet exemple des gilets jaunes où c'est une taxe pour le climat vendue comme telle, qui provoque une colère populaire parce que c'est une atteinte violente au pouvoir d'achat. Est-ce qu'on observe des phénomènes comme cela en Chine, Nathalie Bastianelli ?
Vis-à-vis de la voiture électrique, non, parce que les Chinois ont tellement souffert de la pollution atmosphérique que pour eux, c'est une des solutions. Et d'ailleurs, ce qu'on ne dit pas, c'est que non seulement le marché de la voiture électrique se développe, mais parallèlement, le vélo est remis au goût du jour. C'est-à-dire, les vélos partagés ont explosé dans toutes les villes de Chine, voire même jusqu'à des excès, puisqu'on a parlé des cimetières de vélos. Mais maintenant, vous avez des autoroutes à vélo qui se construisent dans un grand nombre de villes. Et c'est vrai que moi-même, quand je me déplace à Pékin, maintenant je me déplace à vélo.
Alors, on va marquer une courte pause, Nathalie Bastianelli. On va parler de l'alimentation aussi, puisque précisément, j'attaquais en racontant cette initiative de l'Europe qui veut quelque part organiser veut pour la gestion des forêts à l'autre bout du monde. Hein. C'est pour lutter contre cette déforestation importée, infliger des contraintes extrêmement lourdes aux industriels, avec peut-être cette conséquence de privation donc, qu'on ne mesure pas, qu'on n'anticipe pas actuellement. C'est en revanche, exactement le cas en Chine, où je vous donne un exemple. Quand vous allez au restaurant pour 10 personnes, il vous est fortement conseillé de ne commander que de 9 menus. On intègre cette dimension de privation alimentaire que pourrait engendrer le réchauffement climatique. Vous allez nous en parler de ces comportements alimentaires qui nous paraissent, à nous, au point de vue français, absolument stupéfiants. À tout de suite.